السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصا تسبح به، فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. خرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. C'est le hadith numéro 13 du livre. Je suppose que vous ne l'avez pas dans la traduction, car il y a une faiblesse dans ce hadith. Dans ce hadith, Sa'd ibn Abi Waqas radiallahu anhu nous dit: je suis entré avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam chez une femme. Elle avait dans ses mains des noyaux ou des pierres avec lesquelles elle comptait le dhikr, les invocations. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: ne vais-je pas t'informer de ce qui est plus facile que cela ou meilleur que cela? Le fait de dire Subhanallah, exempté soit Allah, au nombre des créatures qu'il a dans les cieux. Exempté soit Allah au nombre des créatures qu'il a sur terre. Exempté Allah au nombre de ce qu'il y a entre les deux. Exempté soit Allah le nombre de ce qu'il crée, et Allah est plus grand que cela autant de fois, et Alhamdulillah, la louange revient de droit à Allah autant que cela, et la ilaha illallah, une divinité n'est digne d'être adorée excepté Allah autant que cela, wa la hawla wa la quwwata illa billah autant que cela. La hawla, c'est-à-dire on ne peut passer d'un état à un autre. Voilà, quoi, il n'y a de force pour faire cela si ce n'est par Allah. Ce hadith, on le trouve dans le recueil de l'imam Abu Daoud et dans le recueil de l'imam Al-Tirmidhi, qui a dit que c'est un hadith bon. L'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dit: كذلك قال وفيه بعد، لأن مداره على سعيد ابن أبي هلال عن خزيمة، وسعيد قال أحمد كان اختلط، وخزيمة قال الذهب والعسقلاني سيدنا حجر لا يعرف، قد بينت ذلك في الأحاديث الضعيف. Donc ce hadith est faible, comme l'a démontré l'imam al-Albani rahimahullah. فهذا الحديث لم يثبت، وقد استدل به من اعتاد استعمال سبحان. Ce hadith est faible, et certains parmi ceux qui utilisent des chapelets se sont basés sur ce hadith faible qui n'est donc pas une parole du prophète sallallahu alayhi وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أصحابه كثيرا يوم الجمعة ويقول لهم إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Il nous rappelait souvent que la meilleure des voies est la sienne. Allah Azza wa Jalla dans le Coran: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Et Allah nous dit dans le Coran: vous avez un parfait exemple à suivre en la personne du messager d'Allah. Et c'est connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il comptait le tasbih, il le faisait avec ses doigts de la main droite. Et la meilleure des voies est la sienne, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a aucun texte authentique sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait fait du dhikr en utilisant un chapelet ou des pierres ou des noix ou des noyaux ou autres. Naam. Et tout ceci était présent à son époque. Il y avait du fil, il y avait des noyaux, il y avait de quoi faire les chapelets que les gens utilisent de nos jours. Mais il l'a délaissé volontairement. C'est que cela n'est pas un bien pour lui ni pour sa communauté. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Donc, celui qui a pris l'habitude pour faire du dhikr, d'utiliser les chapelets, ce qu'on appelle les subha et autres, il lui faut délaisser cela pour revenir à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car personne ne peut mieux t'enseigner comment adorer Allah tabaraka wa ta'ala que celui qu'Allah a choisi et a élu en tant que prophète et messager pour l'ensemble des gens. Et s'il y avait un bien dans cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait et aurait orienté sa communauté à le faire. Et de délaisser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça apporte beaucoup de mal. Que ce soit dans ce domaine ou dans d'autres domaines. Fa mathalan نشأت أو أنشئت عقائد باطلة بسبب هذه الصبحة. Par exemple, certains se sont mis à avoir de mauvaises croyances suite à l'utilisation des chapelets. Suite à l'utilisation des chapelets, certains se sont mis à avoir de mauvaises croyances, se sont mis dans le shirk asra, en pensant qu'en se passant cela sur le visage ou les mains ou sur le corps, ça pouvait apporter un bien ou repousser un mal. Certains mettent cela autour de la taille de leurs enfants en pensant que ça les protège du mauvais œil et ainsi de suite. Certains ont fait des chapelets de composés de 1000 pièces par exemple en disant que celui qui utilise tel chapelet tout particulièrement, il obtiendra telle et telle bénédiction. Tout cela n'est que mauvaise croyance et également, Iyadan Billah. Puis certains ont même donné des noms à certains chapelets. Naam. Certains ont même donné des noms à certains chapelets. Et ils se composent des fois de 1000, alors qu'il n'y a aucun hadith que nous connaissons où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne qu'il nous est légiféré de dire telle parole 1000 fois. Il n'y a pas de dhikr qui se dit 1000 fois tout particulièrement. Donc tout cela nous montre que celui qui s'éloigne de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'attend que le mal, l'innovation et l'égarement. Wallahu musta'an. Aidan, isti'mal as-subha mukhalif li qawli Allah subhanahu wa ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsik. Aussi le fait d'utiliser le chapelet vient en contradiction avec adab ou dhikr, avec le comportement qu'Allah Azza wa Jal nous enseigne dans le Coran, comme ça viendra dans un futur verset, inshallah ta'ala. C'est qu'Allah, dans la traduction de ce verset, nous dit: invoque ton Seigneur en toi-même, c'est-à-dire sans élever la voix, comme nous le montre la suite du verset. دون الجهر من القول. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala enseigne au prophète sallallahu alayhi wa sallam certains comportements à voir lors de l'évocation. Et parmi ces comportements, le fait de ne pas faire montrer aux gens son vécu. Le fait de ne pas faire montrer aux gens son vécu. Qu'en est-il de celui qui utilise un chapelet et qui marche dans la rue? Naam, un chapelet qui tombe jusqu'au sol. Est-ce qu'il a caché son vécu ou est-ce qu'il montre son vécu aux gens? Naam. La meilleure des adorations, c'est celle qui est cachée entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala. Quand tu utilises le chapelet en public, tu caches ton action ou tu montres ton action aux gens? C'est comme si tu appelais les gens à regarder ta bonne action. Si tu fais cela pour Allah tabaraka wa ta'ala, pourquoi est-ce que tu montres cela? Pourquoi est-ce que tu montres ton action? Naam. Allah tabaraka wa ta'ala veut que tu fasses cette action que pour lui. Allah tabaraka wa ta'ala veut que tu fasses cette action que pour lui. Donc tu peux tomber ainsi dans l'ostentation. Tu peux tomber ainsi dans l'ostentation. Un autre mal que ça entraînera, c'est que la personne qui a l'habitude d'utiliser le chapelet, il utilise le chapelet même sans faire de zikr au final. Sahih ? Tu le verras avec le chapelet dans sa main, il fera tourner les boules, mais sans rien dire. Parce qu'il a l'habitude maintenant de faire ce geste. Et de là découlera un grand mal, lequel ? يُحْمَدْ لِمَا لَمْ يَفْعَلْ. Les gens vont faire ces éloges à propos de choses qu'il n'a pas fait. Et les plus prédécesseurs détestaient cela. Ça vient totalement à l'encontre de l'ikhlas, de la sincérité. C'est qu'on va faire tes éloges pour des choses que tu ne mérites pas. Les gens pensent que tu fais du zikr. Et en vrai, peut-être que tu es en train de faire du commerce. Non. Mais ta main bouge comme à son habitude. فَالْخَيْرُ كُلُّ الْخَيْرُ فِي اتِّبَاعِ مَنْ سَلَ. Tout le bien est dans le fait de suivre la voie de ceux qui nous ont devancés. Et les savants ont cité une faïda dans le meilleur dhikr. Et le meilleur dhikr, la ilaha illallah. قَالُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي هَذَا الدِّكْرِ أي كلمة التوحيد ليس فيه حرف شفوي فتستطيع أن تذكر الله والذي بجنبك ما يشعر به. Les savants ont dit dans la meilleure parole, la ilaha illallah, il n'y a aucune lettre qui sort avec les lettres. Il y a plusieurs sorties de lettres, pardon. Non. Il y a par exemple al-halq, il y a les 6 lettres qui sortent de la gorge. Al-hamza, al-ha, al-ayn, al-ha, al-ghay, al-kha. Ça sort de la gorge. Il y a beaucoup de lettres qui sortent de la langue, et ainsi de suite. Pour la ilaha illallah, les lèvres ne bougent pas. Donc tu peux dire la meilleure des paroles, et seul Allah tabaraka wa ta'ala le sait. Donc celui qui dit, moi j'utilise le chapelet car j'ai vu un tel le fait, on lui dit, délaisse cela car ils ont vu eux le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire avec sa main. Donc délaisse cela pour suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas une chose difficile qui t'est demandée. C'est pas une chose difficile qui t'est demandée. Mais des fois l'orgueil se met entre la personne et la sunna. Des fois l'orgueil se met entre la personne et la sunna. Ou bien la personne ne veut pas accepter le conseil car il vient de telle personne. Accepte-le juste parce que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Allah t'a ordonné de le suivre. Et tu ne pourras trouver un meilleur exemple que le sien. Donc toutes ces choses nous appellent à délaisser l'utilisation du chapelet. Au jour d'aujourd'hui, tu rentres dans les mosquées et tu trouves des chapelets accrochés à droite, à gauche, devant, derrière. Comme si c'était une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait légué. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait du dhikr. Naam. Et lorsqu'il comptait son dhikr, il comptait avec sa main droite. Il comptait avec sa main droite. فَمَنْ أَحَبَّهُ فَلْيَتَّبِعْهُ. Donc celui qui aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il le suive. هَذِي سُنَّتُهُ. Voici sa sunnah. Et ceux qui ignoraient cette sunnah,
qu'il remercie Allah tabaraka wa ta'ala de l'avoir connu ce soir pour pouvoir la mettre en pratique. Et ceux qui mettent en pratique cette sunna déjà, Alhamdulillah kazalik wa alhamdulillah alladhi bi tatimmu salihat. Le hadith suivant, vous pouvez suivre dans vos livres. عن سعد بن أبي وقاص أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني كلمات أقولهم قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم قال فهؤلاء لربي فما لي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني فلما ولى الأعرابي قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ملأ يديه من الخير أخرجه مسلم. قال الإمام الألباني في هذا التخريج عدة ملاحظات. الأولى ليس عند مسلم قوله آخر الحديث فلما ولى، كذلك رواه أحمد بدون هذه الزيادة، وإنما وردت في قصة أخرى تشبه هذه من حديث عبد الله بن أبي أوفى إلى آخر كلامه رحمه الله. selon سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Ô messager d'Allah, enseigne-moi des paroles que je prononcerai. Enseigne-moi des paroles que je prononcerai. » Comme vous remarquez dans vos traductions, vous avez la traduction des invocations, pas de l'ensemble du texte. Donc, ce bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit au messager d'Allah, enseigne-moi des paroles que je prononcerai, c'est-à-dire des invocations. Qal, il lui a donc dit, dis, point de divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah, seul et sans associé. Allah est le plus grand, louange à Allah en abondance, pureté à Allah, Seigneur des mondes. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah le puissant, le sage. Le bédouin reprit, ceci est pour mon Seigneur. Qui a-t-il pour moi ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enjoignit alors de dire « Oh Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi et pourvois à ma subsistance. » Al-A'rabi, Al-A'rab, ce sont les bédouins. Soukan al-Badi, il y a ceux qui habitent les campagnes, dans les endroits en général qui sont donc retirés. Et ces gens-là avaient l'habitude de venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc de quitter leurs occupations, leurs terres, leurs maisons, pour venir apprendre comment adorer Allah tabaraka wa ta'ala auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons, lorsqu'ils voyaient des bédouins, ils se réjouissaient, car ils savaient qu'ils allaient tirer profit de leurs questions. Car ils assistaient aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a donc dit, « Allimni kalimatin aquluhun, enseigne-moi des paroles que je prononcerai. » Arada dhikran, يقوله ويحافظ عليه. Il a donc voulu une invocation qu'il allait pouvoir prononcer et préserver.
هذا
Donc le bédouin radiallahu anhu a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une invocation par laquelle il allait pouvoir invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a cité 5 phrases. La première chose, La ilaha illallah wahdahu la sharika. Donc kalimatul tawhid, nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. Puis d'appuyer les deux parties de la parole du tawhid, la négation et l'affirmation. Wahdahu ta'akidun lil ithbat, la sharika la ta'akidun lil nafi. Donc il prononce et proclame la parole du tawhid, il affirme que seul Allah azza wa jalla mérite d'être adoré. Et nulle divinité n'est digne d'être adorée excepté lui. Puis, il appuie la partie affirmative et la partie négative. Et cela nous enseigne une chose très importante. C'est que la personne doit toujours se rappeler de tawhid et parfaire de tawhid. Il ne lui a pas dit de dire seulement la ilaha illallah. Mais ce qui vient pour rappeler de tawhid et parfaire de tawhid. وَهَكَذَا الْعَبْدُ الْمُسْلِمِ يَسِيرُ إِلَى اللَّهِ دَائِمًا مُسْتَحْذِرًا هَذَا الْمَعْنَى مُحَقِّقًا مَذْلُولَهَا. Donc صاحب التوحيد المسلم doit emprunter son chemin qui le mènera à Allah subhanahu wa ta'ala inshallah, toujours en se rappelant التوحيد et toujours en augmentant sa science qu'il a du التوحيد. Et il ne dira jamais التوحيد Allah sahimna. Et ne dira jamais, à l'image de ceux qui se sont égarés, At-tawhid, la science que j'en ai est suffisante et je l'ai compris, cela me suffit. Là, tu auras toujours besoin de tawhid. Et si on te demande jusqu'à quand est-ce que tu vas étudier tawhid, réponds, jusqu'à mon dernier souffle. En espérant qu'Allah Azza wa Jal me facilite la réponse dans ma tombe, aux deux anges qui me questionneront sur le tawhid. La ilaha illallah wahdahu la sharika. Ensuite, Allahu akbar kabira. Allah est le plus grand. Walhamdulillahi kathira. Toutes les louanges reviennent du droit à Allah avec abondance. Wa subhanallahi rabbil alamin. Exempté soit Allah, le Seigneur des mondes. Donc Allah c'est Rabbul Alami, c'est le Seigneur de l'ensemble des univers. C'est celui qui éduque ses serviteurs en leur octroyant de ses biens. C'est leur créateur, leur propriétaire et celui qui dirige toutes leurs affaires. Rabbul Alami. Wal Alami jam'u alim. Ou alam. Al-alamin, ici, c'est le pluriel du mot monde ou bien univers. Il y a l'univers des hommes, l'univers des djinns, l'univers des animaux, l'univers de telles choses parmi les animaux, wa hakada. Ben Allah Azza wa Jalla, Rabbul Jami'. Allah est le Seigneur de l'ensemble. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ceci on l'expliquera inshallah. Al-aziz, al-hakim. Al-aziz, ismun min asma'illah. Wal-hakim, ismun min asma'illah. Suite à cette invocation que lui a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou cette invocation, na'am, le bédouin a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadha li rabbi. Ceci est pour mon Seigneur, c'est-à-dire c'est des éloges. C'est des paroles par lesquelles je vais pouvoir proclamer la grandeur d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa louange. Il a demandé quelque chose pour lui. Na'am. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de dire 5 choses. Allahumma ghfirli wa rahamni wa hdini wa aafini wa rzuqni. Oh Allah, Allahumma ma'ana ya Allah. Pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi et pourvois à ma subsistance. Dans les invocations, il y a dua al-ibada, il y a dua al-mas'ala, il y a des paroles par lesquelles tu fais les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala, il y a des paroles par lesquelles tu demandes un bien qui revient explicitement à ta personne dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Dans ce bas monde ou dans l'au-delà. Et cela nous rappelle le hadith Qudusi de Abu Huraira radiallahu anhu pour Surat al-Fatiha. قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. Dans le hadith Qudusi, Allah dit j'ai séparé as-salah, la prière, c'est-à-dire al-Fatiha, entre moi et mon serviteur en deux. C'est-à-dire qu'il y a la moitié de l'Fatiha qui comprend des éloges à Allah tabaraka wa ta'ala et l'autre moitié des demandes dont le bien revient au serviteur. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني ماذا بيني وبين عبدي إلى آخر الحديث ولعبد ما سأل. Donc la première partie, نعم, jusqu'à إياك نعبد, c'est pour Allah tabaraka wa ta'ala. C'est des éloges. Et la deuxième partie, c'est une demande pour le serviteur. Pareillement pour cette dua. Pareillement pour cette dua. La première partie, tu fais les éloges d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans la deuxième partie, tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ici, Allahumma ghfirli. Donc tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il te pardonne tes péchés. Que signifie cela? Ayassura alayk. Tu demandes à Allah qu'il te cache tes péchés. Wa ya'fu ank. Qu'il t'efface, te pardonne ton péché. Wa yatajawaz ank. Et qu'il ne te tienne pas rigueur pour tes fautes. C'est-à-dire qu'il te préserve des effets découlant des péchés. Deuxièmement, warhamni, fais-moi miséricorde, et pitié de moi, et adkhilni fi rahmatik, bittawfiq lil a'mal as-saliha wa husn al-iqbal ilayk. Donc tu demandes à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il te fasse entrer dans sa pitié, dans sa miséricorde, en t'accordant la réussite dans tes affaires, l'amour des bonnes actions et, la mise en pratique de celles-ci, et qu'il t'aide à te diriger vers lui. Troisièmement, wahdini, et guide-moi. Aïla siratik, ila siratik al-mustaqim. Tu demandes à Allah Azza wa Jal qu'il te guide sur son chemin droit. Wa asbab al-birri wa taqwa, et qu'il t'oriente vers les causes de la réussite, de la crainte, et qu'il te guide vers le délaissement des péchés et la mise en pratique des bonnes actions. Il a sa'alat ou al-falah, vers les causes du bonheur et de la réussite, fi dunya wal akhirah. Et tout cela dans ce bas monde et l'au-delà. Donc tu demandes à Allah Azza wa Jalla la guider vers tout ce qui t'amène le bien dans ton bas monde et dans ton au-delà. Ensuite, wa'afini. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'ils ont traduit ce mot, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi et pourvois ma subsistance. Il manque un mot. Wa'afini, al-afiya, c'est le fait d'être sain, à l'abri du mal. À l'abri du mal. Fatatlub min Allah subhanahu wa ta'ala al-afiya, ay salama fi dinik, wa fi badanik, wa fi kulli shay, fi sihhatik, fi dunyak, wa ukhrak. Tu demandes Allah azza wa jal d'être à l'abri du mal, d'être sain et sauf dans ta religion, afin de ne pas être troublé dans ta religion et tomber dans l'innovation, tomber dans le shirk et l'égarement. Demande à Allah Azza wa Jal qu'il te préserve dans ta santé, qu'il te préserve dans tes affaires de dunya, dans les affaires de l'au-delà et ainsi de suite. Qu'il te protège dans ta religion et dans les affaires de ton bâme. Suite à cela, le bédouin est parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit par la suite au compagnon, laqad mala'a yadayhi min al-khayr. Il a rempli ses mains de bien. Ses mains sont pleines de bien. Ay hassahum ala fi'li ala al-fi'li bimithli hadha al-a'radi. حثهم على حفظ هذه الكلمات وذكر الله بها. النبي صلى الله عليه وسلم lorsqu'il leur a dit cela, c'est pour les encourager à mémoriser ces paroles et à invoquer Allah Azza wa Jal par celles-ci. Car si lui a reparti les mains pleines de bien de par cette dua, si toi tu viens avec la même détermination, tu mémorises ces paroles, tu prononces ces paroles, on espère en Allah Azza wa Jal que toi aussi tu auras rempli tes mains de bien. Rajahu Muslim. Wa an Abdillah bin Mas'ud radiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam laqitu Ibrahima laylata usriya bi faqala ya Muhammad أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال الترمذي حديث حسن. هذا الحديث له شواهد قال أهل العلم يرتقي إلى درجة الحسن. Donc ce hadith a certaines faiblesses, mais il y a plusieurs chaînes de transmission et témoins de ce hadith qui l'élèvent au niveau où les savants ou des savants l'ont accepté. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai rencontré Ibrahim la nuit où on m'a fait accomplir le voyage nocturne, et il m'a dit: ô Mohammed, transmets mon salut à ta communauté. Informe-les que le paradis est une terre agréable, plate et vierge, une eau douce, ainsi que ses plantations. Une eau douce, na'am. Et que ses plantations sont, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que la nuit durant laquelle on lui a fait accomplir le voyage nocturne, il a rencontré Ibrahim. Ibrahim, alayhi salam, Abu al-Anbiya, wa Imam al-Hunafa, Kasir al-Asnam, biyadih, alayhi wa ala nabina, as-salatu wa salam. Ibrahim, comme vous le savez tous, c'est le père des prophètes. C'est Khalil al-Rahman, c'est le maire des prophètes et messagers après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète père des prophètes. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Ibrahim alayhi salam a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de transmettre de sa part le salam à sa communauté. Les prophètes aiment cette communauté. Et les prophètes aiment Ahl al-Tawhid. Et de cela, on voit Nushu Nabi Allah Ibrahim li hadi l'umma. Et on voit que le prophète Ibrahim alayhi salam aimait le bien pour cette communauté. La meilleure des communautés, la dernière. La communauté du meilleur des prophètes, le dernier. Sallallahu alayhi wa sallam. Transmets mon salut à ta communauté et informe-les que le paradis, tayyibatu turbah, a une terre agréable, Azbatu, donc, maza, plate et vierge. Azbatu al-ma, son eau est bonne. Wa annaha qi'an, et qu'elle, que cette terre est vierge. C'est-à-dire, prête à être labourée, facile à être labourée. Et maza, la pousse des plantes et des plantations se fait de manière très facile. Donc la personne qui entend cette description, et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle à des gens qui ont l'habitude maza des plantations et de l'agriculture ainsi de suite. Et même nous, à notre époque, l'agriculteur, ce qu'il aime le plus, c'est ce genre de terre qui est facile à travailler. Puis, le prophète Ibrahim alayhi salam a dit, « Rira Asura » et ses plantations, yani lorsque tu as une terre que tu dois la travailler, non, tu veux qu'elle te donne maza des légumes et autres. Est-ce que tu as besoin pour cela de t'équiper, de dépenser, de te fatiguer, de te lever tôt, de te coucher tard, de te soucier de la tombée de la pluie, ainsi de suite? Ibrahim alayhi salam nasahad. Il nous a conseillé et nous a transmis la cause pour pouvoir avoir de nombreuses plantations et construire son paradis. Ghirasuha subhanallah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Voici les causes par lesquelles on te plantera des arbres fil jannah, des plantations fil jannah. Ces quatre paroles, subhanallah, أي أنزه الله أقدسه من كل عيب ونقص وباطل مما قالت به مما قال به الظالمون سبحان الله ce dhikr signifie exempté soit Allah, c'est-à-dire Allah est parfaitement éloigné et innocent de toute mauvaise parole que lui ont attribué les injustes. Il est exempté de tout défaut. Alhamdulillah, wasful mahmoud bil kamal, ma mahabbatin wa ta'zim. Et lorsque tu dis Alhamdulillah, après avoir dit Subhanallah, ça c'est la partie négative du tawhid. La phrase na'am, négative du tawhid, walhamdulillah, c'est la partie affirmative. Et le sens de Alhamdulillah, c'est-à-dire que tu décris Allah en faisant ses éloges, en citant ses attributs de perfection, et cela le cœur rempli d'amour et d'immensification pour Allah. Donc, tu dis qu'Allah n'a aucun défaut, puis tu affirmes bien au contraire qu'il a la perfection dans tous ses attributs. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Puis tu proclames le tawhid. La ilaha illallah, nulle divinité n'est digne d'être adorée, excepté Allah. La partie négative, la ilaha, tu renies le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. Puis illallah, tu affirmes que le seul qui mérite d'être adoré est Allah. Donc tu as concrétisé al-tawhid dans asma wa sifat avec subhanallah wa alhamdulillah. Puis tu concrétises al-tawhid dans al-uluhiyya en disant la ilaha illallah. Lui tu dis wallahu akbar, et Allah est le plus grand. Et Allah est le plus grand. Donc, on voit le bien qu'il y a à évoquer Allah tabaraka wa ta'ala par ses invocations. Cela ne te demande aucun effort. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar. Tu peux dire ce dhikr en marchant, en étant assis, en conduisant, en étant chez toi, en étant au travail, en étant fait le masjid. La yukallifu kashfa. Il n'y a aucune difficulté dans cela. Mais c'est l'insouciance qui touche les gens. C'est la paresse qui touche les gens. Et c'est le fait de ne pas connaître les mérites de ces paroles. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc on nous encourage ici à dire souvent ces bonnes paroles. Le hadith suivant, par lequel l'auteur rahimahullah ta'ala l'a conclu, وقال أبو موسى الأشعري قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا دلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه دي للبروفيس صلى الله عليه وسلم ما دي ne t'indiquerai-je point l'un des trésors du paradis? Je répondis certainement au messager d'Allah. C'est-à-dire, informe-moi donc de ce. Il reprit, dit, la hawla wa la quwwata illa billah. Donc, la hawla wa la quwwata illa billah est un des trésors du paradis. Et il traduit ici par, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. Le fait de traduire la hawla par il n'y a de force, fi nava, c'est grandement discutable. والله أعلم. فلا حول ولا في هذا الحديث فضل هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة وهي كلمة استعانة. Donc لا حول ولا قوة إلا بالله c'est une grande parole qui plaît à Allah تبارك وتعالى. Qu'Allah aime entendre de ses serviteurs. Allah aime que tu répètes cette parole لا حول ولا قوة إلا بالله. Et c'est une parole qui comprend et dont le sens est la demande d'aide. Quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, c'est une parole de demande d'aide. C'est une parole dans laquelle tu te décharges de toute force, de toute puissance, de toute capacité à passer d'un état à un autre, d'un mal vers un bien, si ce n'est par l'aide d'Allah. Donc la hawla wa la quwwata illa billah, kalimatu si'an, c'est une parole qui comprend la demande d'aide, dont le sens est la demande d'aide. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim. فما معنى هذه الكلمة الجميلة العظيمة. Donc que signifie cette belle parole? معناها لا تحول من حال إلى حال من ضلال إلى هدى من جهل إلى علم من خطا الى صواب من مرض الى صحه من ضعف الى قوه من بعد عن الله الى قرب منه الا باعانه الله سبحانه وتعالى الا ان يعينك الله تبارك وتعالى. Donc la première partie de la phrase ou bien plutôt la hawla wa la quwwata illa billah signifie on ne peut passer d'un état à un autre, si ce n'est par l'aide d'Allah et sa force. Et les savants citent des exemples. Donc ils disent, personne ne peut passer d'un état à un autre, d'un égarement à une guidée, de l'égarement à la guidée, de l'ignorance à la science, de la faiblesse vers la force, de la maladie vers la bonne santé, si ce n'est par l'aide d'Allah et la force qu'il nous accorde. Si ce n'est par l'aide d'Allah et la force qu'il nous accordera. فَلَا قُوَّةَ لِلْعَبْدِ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ إِلَّا بِإِعَانَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِيَّا. Donc le serviteur n'est pas capable de faire une chose, de passer d'un état à un autre. Il n'a pas la force de faire cela, la capacité de faire cela, si ce n'est si Allah lui accorde force et réussite. Quel que soit le domaine, quelle que soit l'action, sache que tu ne pourras jamais réussir ni faire une partie de ce que tu recherches si ce n'est avec l'aide d'Allah tabaraka wa ta'ala. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وشرع لنا أن نقول هذه الكلمة عند الخروج من البيت، عندما تستقبل أمرا من أمور الدنيا أو الآخرة. Il nous a été, c'est pour cela qu'il nous a été légiféré de dire cette parole lorsque nous sortons de chez nous. Car lorsque tu sors de chez toi, soit tu vas à la recherche d'une chose dans ton pays, qui te servira à fil dunya et dans l'au-delà, soit tu vas à la recherche d'une chose qui va te servir dans ta dunya. Et pour tout cela, tu as besoin de force et de réussite. Et qui est le seul à pouvoir t'accorder cela? Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait de chez lui, il disait « Bismillah » توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فيل ديزة اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل أو أضل أو أذل أو أذل أو أذل أو أذل أو أجهل أو يجهل علي. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il sortait de chez lui, il avait cela dans son cœur. Il avait cette croyance dans son cœur. Que personne ne peut passer d'un état à un autre et réussir à sortir d'un mal vers un bien ou à obtenir la réussite dans une chose si ce n'est selon ce qu'Allah Azza wa Jalla facilitera à son serviteur. Donc c'est une parole qu'il convient de citer avec abondance. Al-Sharih nabbaha ala shay' wa akhadha dhalika an al-mu'allif. Donc celui qui explique le livre, Al-Sheikh Abdul Razak Al-Bad, Hafidahullah Ta'ala, waffaqahu ila kulli khayr. Attire notre attention sur un point. Il fait une remarque pertinente qu'il a prise de l'auteur lui-même, Ibn Taymiyyah, rahimahullah Ta'ala, qui est que certaines personnes disent cette parole, la hawla wa la quwwata illa billah, mais dans un contexte qui n'est pas adéquat, dans lequel il ne convient pas. C'est qu'ils utilisent cette parole comme l'on dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'u. Kalimatu sirja', lors d'un malheur, d'une difficulté, ils disent, yani ce qui nous a été légiféré, c'est de dire quoi? Lazina idha asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'u. Lorsque tu es touché par un malheur, tu dis inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Lorsqu'il y a un décès, lorsqu'il y a un malheur. Voici ce qui nous a été légiféré. Les gens disent à ce moment-là la hawla wa la quwwata illa billah. Par exemple, un tel est décédé, ils disent la hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce que cela est sa place? Non. La hawla wa la quwwata illa billah, kalimatu isti'an. Ma hiya kalimatu istirja'? C'est une parole avec laquelle on recherche l'aide d'Allah. On affirme notre incapacité, notre faiblesse quant à l'acquisition d'un bien, le délaissement d'un mal, la réussite dans une affaire. Et on affirme que le seul qui peut nous permettre la réussite et nous accorder cette force pour l'atteindre est Allah. Donc, la hawla wa la quwwata illa billah est une parole avec laquelle on cherche l'aide auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ainsi que l'auteur rahimahullah ta'ala finit ce deuxième chapitre. Fasl fi dhikrillah ta'ala tarafayn nahar. Le chapitre suivant, l'évocation d'Allah aux extrémités du jour et de la nuit. L'évocation d'Allah aux extrémités du jour et de la nuit. طرفي النهار أي أول النهار وآخره. طرفي النهار, les deux extrémités, c'est-à-dire le début du jour et la fin du jour. أول النهار ما بين الصبح وطلوع الشمس وآخره ما بعد العصر إلى ما قبل غروب الشمس. Donc, les deux extrémités du jour et de la nuit, c'est-à-dire de l'aube, c'est-à-dire du fajr, du subh, c'est la même chose, bil jumla, jusqu'avant le lever du soleil. jusqu'avant le lever du soleil. D'accord ? La deuxième extrémité, c'est-à-dire de après l'asr jusqu'avant le coucher du soleil, c'est-à-dire al-maghrib. Donc après que l'auteur nous ait cité les mérites de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala de manière générale, dans un premier temps avec les versets du Coran, dans un second temps avec les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici un chapitre plus particulier, le mérite de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala le matin et le soir, c'est-à-dire avant, c'est-à-dire de l'aube jusqu'avant le lever du soleil, et après l'asr jusqu'avant le coucher du soleil. Et la plupart des textes nous parlant des mérites de l'évocation sont dans ce moment-là. Ce sont les meilleurs moments pour évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ces moments ont une place toute particulière dans le domaine de l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. فالصباح وقته الذي يسبق طلوع الشمس والمساء وقته الذي يسبق غروب الشمس. Malgré ça, le cheikh dit, lorsque je dis cheikh, c'est cheikh Abdul Razzaq, hafidhahullah ta'ala, que si une personne, suite à une incapacité, une occupation ou autre, n'a pas pu citer ses invocations et faire cette évocation à ces deux moments, ben qu'il sache qu'il pourra les faire même après. Qu'il pourra les faire même après, c'est-à-dire après le lever du soleil et après Al-Maghrib. Mais il devra viser ces deux temps. Mais s'il n'a pas pu, alors il ne délaisse pas les invocations. Il les dit quand il le peut. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الأصيل ما بين العصر إلى المغرب. Allah le traduit, donc la traduction, ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante et glorifiez-le à la pointe et au déclin du jour. Le déclin désigne la période comprise entre le Asr et le Maghrib. Al-Asr, le déclin signifie la période qu'il y a entre Al-Asr et Al-Maghrib. L'auteur cite une seconde fois ce verset dans son livre. Car il y a un témoin pour ce chapitre, les deux extrémités, donc du jour et de la nuit, les extrémités du jour et de la nuit ont été citées dans ce verset. Al-Shahid Bukratan wa Asila. Al-Bukur awwalun nahar wa bidayatu. Bukratan, c'est-à-dire au début du jour, avant le lever du soleil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah a mis la bénédiction dans sa communauté du fait qu'il se lève tôt, yani dans les premiers moments de la journée. Ibn Qayyim dit que c'est le moment où la subsistance est partagée entre les serviteurs. Et celui qui préserve ce moment-là, c'est-à-dire le temps qu'il y a entre le fajr et le lever du soleil, Allah Azza wa Jal mettra la baraka dans l'ensemble de sa journée jusqu'au soir. لذا قال بعض أهل العلم أول النهار شبابه وآخر النهار شيخوخته ومن شاب على شيء شاب عليه. Les savants disaient, le début de la journée est semblable à ta jeunesse et la fin de ta journée est semblable à ta vieillesse. Et celui qui grandit dans une chose vieillira dessus. Et celui qui grandit dans un domaine vieillira dans celui-ci. Donc celui qui commence sa journée avec paresse, avec fainéantisme, et ainsi de suite, ben la fin de sa journée sera pareille. Il n'y aura pas beaucoup de baraka, de bénédiction dans sa journée. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour celui qui dort et ne se lève pas pour la salat, il se réveille, khabithun nafs kaslan, na'am, avec un mal-être et de la paresse. Par contre, s'il commence sa journée avec nashat, avec vigueur, avec persévérance dans le dhikr, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, préserve ses invocations et fait des efforts dans tout cela, Allah tabaraka wa ta'ala lui accordera la réussite dans le reste. Et certains parmi les salafs disaient, yawmuka mithlu jamalik, ta journée est semblable au chameau qui a la tête. In amsakta awwalahu tabi'aka akhiru. Si tu maîtrises le premier et qu'il te suit, tout le reste de la caravane te suivra. Naam. Vous voyez comment Mada se comportent les chameaux. Ils avancent, yani, en ligne. Donc, celui qui maîtrise le premier, le deuxième suivra le premier, le troisième le deuxième, et ainsi de suite. Pareillement, pour le rapport qu'il y a entre ta matinée et l'ensemble et le reste de ta journée. Donc sache que le début de ta journée est le moment de la bénédiction, de la baraka, du partage, de la subsistance et du khayr. Donc le musulman ne doit pas perdre ce moment. وَمَا كَانَ السَّلَفِ يَعْرِفُونَ النَّوْمَ بَعْدَ الْفَجْرِ. Et les salafs ne connaissaient pas le sommeil après le fajr. Il ne dormait pas après le fajr. Au point Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit, même lorsqu'ils voyageaient et même lorsqu'ils étaient de retour d'un long voyage, ou bien lorsqu'ils étaient en voyage et s'arrêtaient, à ce moment-là, ils ne dormaient pas. Ils attendaient le lever du soleil pour se reposer. Ils ne dormaient pas après le fajr. Ça n'était pas un moment pour dormir chez eux, de par ce qu'ils ont connu dans les textes et comme bénédiction dans ce moment-là. Et dans le cas de l'imam Muslim, an Abi Wa'il Shaqiq ibn Salama. Shaqiq ibn Salama nous dit, Sallayna al-subh, thumma zahabna ila ibn Mas'udin radiallahu anhu. Nous avons pris la prière du matin subh, puis nous nous sommes rendus chez Abdullah ibn Mas'ud. Fasta'adhanna fi al-dukhul. Nous avons donc demandé la permission pour entrer. Donc la servante a demandé la permission afin que nous puissions entrer. Fa'udhina lana. La permission nous fut donnée. Lakin intadharna qalilan. Nous avons attendu un instant avant d'entrer. Lorsque nous sommes entrés, qala lana ibn Mas'ud, limada ta'akhkhartum fi ad-dukhul. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu leur a dit, pourquoi est-ce que vous avez tardé à entrer alors qu'on vous avait donné la permission? Ils ont répondu, nous avons pensé que certaines personnes dans la famille dormaient ou autres. Et ils ont attendu qu'on leur fasse le passage. Naam, car c'est une heure où certaines personnes peuvent ne pas, par exemple, être habillées de sorte à recevoir des gens de l'extérieur, et ainsi de suite. Comme on le sait, le matin. À ce moment-là, Ibn Mas'ud radiallahu anhu leur a dit une parole dans laquelle il y a une grande éducation pour eux et nous. Pour eux et nous. Qala, avalantum fi ali ibn ummi abd ghafla. Est-ce que vous avez soupçonné des membres de la famille de Ibn Ummi Abd d'insouciance? Est-ce que vous pensez que dans la famille de Ibn Mas'ud, les gens sont distraits et insouciants? C'est-à-dire que chez nous, personne ne dort après le fajr. Comment est-ce que vous avez pu penser ça de membres de ma famille? Subhanallah. Subhanallah. Kadhalika kanu, c'est ainsi qu'ils étaient. Radiallahu anhum. Là. Donc à ce moment béni, il ne dormait pas. ثم أخذ يسبح. Puis il s'est mis à faire du zikr. ثم قال إلى الجارية أطلعت الشمس. Est-ce que le soleil s'est levé? قالت لا. Elle est partie voir, puis elle a dit non. Alors il a continué à faire du zikr. Puis il lui a redemandé à nouveau, est-ce que le soleil s'est levé? Elle est partie voir, elle lui a dit non. Puis il a continué à faire du zikr. Puis il lui a redemandé, elle a dit oui. Non? Donc quelle était son habitude? Quelle était l'habitude des pieux prédécesseurs? De faire du zikr, du subh, après la prière du subh, jusqu'à ce que le soleil se lève. Par la suite, il a dit une grande parole. قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. Il a dit, la louange revient de droit à Allah, celui qui nous a maintenus ce jour-là et ne nous a pas fait périr pour nos péchés. Subhanallah. Alhamdulillah. La louange revient de droit à Allah. Celui qui nous a gardés ce jour-là et ne nous a pas fait périr pour nos péchés. Subhanallah. À quelle heure est-ce que Ibn Mas'ud a dit cela? À quel moment? في وقت الشروق. نعم. Au moment où le soleil s'est levé. Pourtant, il a remercié Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir accordé la réussite pour ce jour. Comment cela se fait-il? نعم. Alors qu'on est encore au début.
On a dit que le reste de la journée, il va
découler. Car celui qui préserve le début, Allah lui préserve le reste. Donc ils avaient ce fiqh. Ils avaient cette compréhension que celui qui préserve le début, Allah lui accorde la réussite pour la suite. C'est pour cela qu'il a dit fi yawmina hadha aw yawmana, pour l'ensemble du jour. Il a affirmé cette réussite pour l'ensemble du jour. Hal jazaa'ul ihsan ila al ihsan wal ladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Et ceux qui font des efforts vers nous leur faciliterons la guider vers nos sentiers. Donc voici pourquoi les pieux prédécesseurs préservaient autant ce moment-là, car c'est un moment mubarak. C'est un moment qui est rempli de bénédictions et de biens. Et beaucoup parmi les gens se délectent de par le sommeil à ce moment-là précisément. Pour eux, le plus grand plaisir qu'ils trouvent à dormir, c'est Ba'd al-Fajr. Alors que c'est totalement contraire à la voie des pieux prédécesseurs, c'est qu'on connaît Allah tabaraka wa ta'ala et explorer l'au-delà. Ajoutez à cela que les connaisseurs disent que ce sommeil-là n'est pas bénéfique pour le serviteur. Il n'est pas sahih, il ne l'aide pas dans sa santé, il n'aide pas à mada, au repos. Il n'aide pas au repos, bien au contraire, il fait naître al-kasal, il fait naître la paresse et la faiblesse du corps. Et la diminution, bien la faiblesse du risque de la subsistance, celui qui dort tous les matins. Kayfa ya'ti rizquhu? D'où va venir son risque? Na'am. Et parmi les anciens, certains sont devenus de grands savants. Ils travaillaient le matin et ils faisaient talbi'im la journée. Ils travaillaient tôt le matin puis ils allaient faire talbi'im. Na'am. Et certains parmi les anciens, parmi les savants disent, donc un des grands savants qui est à la mosquée du prophète dit, parmi nos camarades, certains travaillaient au champ. Non. Certains travaillaient au champ. Et il dit, certains travaillaient dur. Et ensuite, ils se lavaient, venaient dans les plus beaux vêtements en tant que talbi'in. Et ils assistaient aux assises de science. Non. Donc, c'est un moment où il faut prendre de nouvelles résolutions. Il faut changer le mode de vie. Talbi'il, ma yanam ba'd al-fajr. Déjà, celui qui étudie, il ne dort pas ba'd al-fajr. Certaines personnes, la plupart du Coran qu'ils ont appris, c'est seulement entre le fajr et le lever du soleil. Et il y a des textes dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage, après salat al-fajr, à rester jusqu'au lever du soleil. À rester jusqu'au lever du soleil. En faisant du dhikr, pas pour discuter avec tes camarades. Na'am, en faisant du dhikr. Donc chaque personne doit réviser sa personne et prendre la ferme intention et décision d'occuper ce moment béni désormais par l'évocation d'Allah Ta'ala. Fais cela et fais rentrer cette sunna dans ta famille, chez toi. Et Allah Azza wa Jal yatrud al-shaytan min baytik. Ainsi Allah Azza wa Jal fera sortir al-shaytan de Mada, de ta maison. Nombreux sont ceux qui ont des soucis chez eux car l'adoration n'est pas présente, le dhikr n'est pas présent dans leur foyer. Wallahu musta'an. Et tout cela est valable également pour le coucher du soleil. Le verset suivant que nous cite l'auteur rahimahullah ta'ala. Wa qala ta'ala wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahr min al-qawli bil-ghudwi wal-asal wa la takun min al-ghafilin. Pour que les gens qui n'ont pas le livre puissent suivre, le verset précédent est dans Surat Al-Ahzab, verset 40 de Surat Al-Ahzab, et ce verset dans Surat Al-A'raf, le verset 205. Et peut-être que je citerai que la Surat afin que vous lisiez la Surat entièrement. Na'am. Donc, dans ce verset de Surat Al-A'raf, dont la traduction est « Et évoque ton Seigneur en toi-même » en humilité et crainte, à mi-voix, le matin et le soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Al-shahid min al-aya bil-ghudwi wal-asal. Donc l'auteur a cité ce verset dans ce chapitre, car on nous cite le fait d'invoquer Allah Azza wa Jal le matin et le soir. Jama'a Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-aya al-amr bi dhikrillah wal-nahy 'an diddihi. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a uni entre l'ordre de l'évoquer et l'interdiction de l'insouciance. Donc au début du verset, on nous ordonne de l'évoquer, à la fin, on nous interdit d'être insouciant. Dans ce verset, il y a plusieurs enseignements quant au comportement à avoir lors de l'évocation d'Allah. Quant au comportement à avoir lors de l'évocation d'Allah. Certaines personnes invoquent Allah, le cœur distrait. C'est que la langue qui bouge. Certaines personnes invoquent Allah que avec le cœur, sans bouger la langue. Certaines personnes invoquent Allah en mâchant du chewing-gum. Na'am. Ou après avoir mangé sans s'être nettoyé les dents ou rincer la bouche. Et beaucoup de choses. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous informe, nous oriente, nous éduque quant à son évocation. Premièrement, fi nafsik, en toi-même, invoque Allah en toi-même. في نفسك أي لا تحاول أن تبدي هذا الذكر للناس لا تظهر هذا الذكر للناس حاول أن يكون سرا بينك وبين من تريد وبين من تقصد وبين من تعبد donc invoque Allah en toi-même, c'est-à-dire efforce-toi de cacher ce dhikr et fais en sorte qu'il soit entre toi et Allah. Puis en toi-même, ça ne veut pas dire évoquer Allah que avec ton cœur, sans bouger la langue, comme nous le montre la suite du verset. Mais ça veut dire évoque Allah en faisant en sorte de ne pas lui faire écouter tes paroles à tout le monde. Mais fais en sorte de cacher cela. Et ce qui nous montre que ce qui est voulu n'est pas invoquer Allah que avec son cœur sans parler, c'est la suite. Allah dit wa dun al jahr, yani à mi-voix, en abaissant la voix, min al qawl. Donc, par la suite, tadarru'an wa khifa, avec humilité, avec humilité. Ay bil ilhah wal mudawama wal istimrar. Donc, sois régulier dans l'évocation d'Allah. Efforce-toi de toujours évoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, وَخِيفَةً بِالْخَوْفِ, avec la crainte. Donc tu évoques Allah tabaraka wa ta'ala avec espoir, certes, mais aussi avec la crainte. Tu as peur que ces paroles ne montent pas vers Allah. إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ, vers lui remonte la bonne parole. Donc toi, tu espères que ces paroles en font partie, mais tu crains qu'elles ne remontent pas vers lui, car tu connais tes manquements, tu connais tes imperfections, tes lacunes, tes péchés. Donc tu as peur qu'Allah Azza wa Jal n'accepte pas cela de toi. Donc tu es entre la crainte et l'espoir. Comme Allah a décrit ses serviteurs, « وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ » Ceux qui donnent de ce qu'ils donnent, c'est-à-dire les bonnes actions qu'ils avancent, alors que leurs cœurs sont bouleversés, ils ont peur à l'idée qu'ils ont de revenir vers Allah, car ils savent qu'ils vont revenir vers Allah. Donc c'est ainsi qu'ils étaient. Ils faisaient de bonnes actions et avaient peur qu'Allah ne les accepte pas d'eux. Et au même moment, tu dois espérer qu'Allah Azza wa Jal accepte cela de toi. Ça te poussera à faire beaucoup de zikr. Donc tu es entre la crainte et l'espoir. Wadun al-jahri min al-qawl, à mi-voix. Donc ni tu élèves la voix, d'accord, ni tu la baisses totalement. Donc ici, tu bouges la langue. En faisant du zikr, tu bouges la langue. Donc le cœur, c'est la base, et la langue l'accompagne. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a divisé le dhikr en 3 degrés. Il a dit que le meilleur, c'est celui qui est fait avec le cœur et la langue. Avec le cœur et la langue. Tu dis Alhamdulillah, ta langue bouge, mais ton cœur avec. Tu as comme croyance qu'Allah est parfait. Et lorsque tu affirmes qu'il a les attributs les plus complets, les plus parfaits, tu fais cela et ton cœur bouge de par cette évocation. Et il se remplit d'amour et d'immensification pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième degré, c'est le cœur seul. Le troisième degré, c'est la langue seule. Et c'est cela dans son livre Al-Wabil Sayyib. Wa fi hadha, et dans cela, il y a une réfutation à ceux qui font du dhikr en groupe. عند أهل التصوف الضلال, tu trouves qu'ils se réunissent et font du dhikr en groupe. Naam. Alhamdulillah, Allah a purifié cette mosquée de cette innovation. Il n'y a pas cette innovation ici. Dans certaines mosquées, tu peux trouver ça. Pas dans beaucoup de mosquées en France, Allahu a'lam, mais tu peux trouver cela. C'est que les gens, après l'Asr ou entre le Maghrib et l'Isha, ils se réunissent et ils prennent le Coran. Et ils récitent tous ensemble avec la même voix. Cela est un mal. Et comment ça pourrait être un bien alors que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait? Les compagnons ne l'ont pas fait. C'est une innovation que les gens ont amenée. Sachez que cela est un mal. Le fait de se réunir et faire du zikr en même temps, est-ce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça? Non. Abu Bakr l'a-t-il fait? Non plus. Omar? Non plus. Uthman? Non plus. Wahak? Une chose qu'ils n'ont pas fait, allons-nous la faire nous? Qui sommes-nous pour ajouter des choses dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? Donc tout le bien est dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce verset, Allah nous enseigne comment faire le dhikr. Tu dois baisser la voix, tu ne dois pas l'élever. Lorsque ces gens se réunissent, ils lisent le Coran d'une seule et même voix, ça n'est même pas agréable à l'écoute, et ils élèvent la voix ainsi. Hadi bid'a wa dhalal, ceci est une innovation et un égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Mas'ud, Iqra alayya al-Qur'an, lis-moi le Qur'an. Ibn Mas'ud lui a dit, Awa aqra'u alayka rasulallahu alayka unzil, est-ce que je vais te lire le Qur'an? Je vais te réciter le Qur'an alors que c'est toi qui a été révélé? Et il lui a dit, j'aime l'écouter des autres personnes. Ensuite Ibn Mas'ud a récité le début de surah An-Nisa. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité avec lui? Non. Non. S'il y avait un bien dans cela, le prophète sallam l'aurait fait. As-sahaba, lorsqu'il se récitait le Coran, une seule personne récitait, les autres écoutaient. Et c'est connu depuis le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hakala. Amma de se réunir et de réciter le Coran en groupe, c'est un mal, c'est un égarement et c'est une innovation. C'est une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait. Les compagnons non plus. Même si on peut trouver cela dans tel pays, dans tel endroit, nous disons que la voie à suivre est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La voie à suivre est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, suivez ma tradition et la tradition des califes bien guidés, c'est-à-dire Abu Bakr, Omar, Othman et Ali radiallahu anhum ajma'in. Que ce soit de par la lecture du Coran ou autre, même la veille du Eid jusqu'à la venue de l'imam pour khutbatul Eid, il nous a été légiféré à ce moment-là de faire du dhikr à voix haute, sahih. Est-ce qu'on doit le faire en groupe? Non. Est-ce qu'on doit le faire en groupe? Non. Chacun fait son dhikr pour lui-même. Chacun fait son dhikr pour lui-même. Wa billahi tawfiq. Bil ghudwi wal asal. Al ghudwi wa al sabah. الباكر قبل طلوع الشمس والآصال ما بين العصر والمغرب ثم قال المؤلف وقوله تعالى وسبح بحمد ربك عفوا وسبح أي نعم وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار من سورة غافر الله سبحانه وتعالى نديس ما تخدكسون et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur, soir et matin. Donc ici on voit qu'on nous encourage à évoquer Allah tabaraka wa ta'ala le matin et le soir. Le matin c'est-à-dire avant le lever du soleil, et le soir c'est-à-dire avant son coucher. Puis, وقال تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Dans sourate Qaf, on nous dit donc selon la traduction, et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant le coucher. Donc tous ces textes nous montrent qu'il nous est légiféré d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala, et tout particulièrement avant le lever du soleil et avant le coucher du soleil. وقال تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سورة الأنعام. Allah nous dit donc selon la traduction, ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur cherchant sa face. Voici le comportement des compagnons. Dans ce verset, on nous montre que les compagnons, ceux qui accompagnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, invoquaient Allah tabaraka wa ta'ala dans ces deux moments bénis. Dans ces deux moments bénis. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas repousser ces gens-là. Pourquoi? Car certains parmi les nobles de Quraysh, qui n'étaient pas musulmans, se sont mis à dire, si seulement ils n'étaient pas accompagnés de ces gens-là, ils ont dénigré les sahabes, non, alors on pourrait éventuellement prendre place à ses côtés. Allah tabaraka wa ta'ala a montré que l'élévation se fait par ad-din. L'élévation, ar-rif'a, innama hiya bid-din, bit-tawhid, bis-sunnah, bil-istislam lillahi tabaraka wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'éloigner des compagnons pour accueillir ces gens qui ont proféré ces paroles. Et ici on a une information qui n'a pas été citée auparavant. C'est at-tanbih ala al-ikhlas. C'est qu'on attire notre attention sur la sincérité dans le dhikr. Tu as appris l'importance du dhikr. Tu as appris l'importance du dhikr. Bain al-fajri wa ma qabla tulu'i shams. Tu as appris l'importance du dhikr avant le coucher du soleil. Ici, on attire ton attention sur la chose la plus importante. La condition pour que ce dhikr soit accepté, c'est quoi? Al-ikhlas, la sincérité. Yuriduna wajha. Il recherche son visage. Il recherche sa face. Donc il faut être sincère lorsque t'invoques Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala ta'ala فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. Dans sourate Maryam, ce qui signifie puis leur fit signe de prier matin et soir. Puis leur fit signe de prier matin et soir. D'invoquer matin et soir. إشارة إلى ما قاله نبي الله زكريا عليه السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام ما قال لقومه وفي هذا فائدة عظيمة وهي أن المحافظة على ذكر الله تبارك وتعالى قبل طلوع الشمس وقبل الغروب سنة ماضية. Et dans cela il y a une grande information, c'est que le fait de préserver l'évocation d'Allah تبارك وتعالى avant le lever du soleil et avant son coucher, en plus d'être dans notre législation, c'est une chose qui était connue chez les prophètes avant. C'est une chose qui était connue chez les prophètes avant. Comme ici, cela nous est relaté dans les propos de Zakaria alayhi wa ala nabiyyina salat wa salam. Wa qawluhu ta'ala wa min al-layl fasabbihhu wa idbar an-nujum. Dans sourate At-Tur, le mont, ou bien ils disent At-Tur, glorifie-le une partie de la nuit et au déclin des étoiles. Glorifie-le une partie de la nuit et au déclin des étoiles. Fil amr bi dhikrillah subhanahu wa ta'ala fi hadhayn al-waqtayn. Donc une partie de la nuit, wa min al-layl ay juz'un min, une partie de la nuit, wa idbar an-nujum wa akhir al-layl. Wa qala ta'ala fa subhanallahi hina tunsuna wa hina tusbihun. Dans sourate Ar-Rum, glorifie Allah donc soir et matin. Donc on nous encourage une fois de plus à évoquer Allah tabaraka wa ta'ala le matin et le soir. Lorsqu'on nous cite le matin, c'est avant le lever du soleil. Lorsqu'on nous cite le soir, c'est avant son coucher. Wa qawluhu ta'ala wa aqimis salata tarafay an-nahara wa zulafan min al-layl. La parole d'Allah le Très-Haut, selon la traduction, et accomplit la prière aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Et c'est ainsi que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a fini la citation de certains versets du Coran montrant le mérite particulier qu'il y a évoqué Allah tabaraka wa ta'ala aux extrémités du jour et de la nuit, c'est-à-dire le matin après al-subh jusqu'au lever du soleil et en fin d'après-midi après l'asr jusqu'à son coucher. Et dans ce verset fi tansis ala tarafay an-nahar kama fi tarjama. Et dans ce verset, il y a la citation de ce que l'auteur a choisi pour intituler donc ce chapitre. Dans ce verset, on nous cite les moments des salawat et on les divise en deux temps. Dans le premier moment, zulafan min al-layl, et le deuxième moment, ou plutôt donc un bout de la journée et de la nuit. Donc, il y a, comme on le sait tous, 5 salawat, al-fajr, al-dhahr, al-asr, et il y a al-maghrib, et al-isha. Puis, on nous montre un des mérites du dhikr. Puis on nous montre un des mérites du dhikr. Inna al-hasanat yudhibna al-sayyat. Fadhikr, fadhikrullah hasana, azima. Bel kama fi hadith abidhar. Awa la ilaha illallah min al-hasanat. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bel hiya a'zamu al-hasanat. Naam. Parmi les plus grandes hasanat, dhikrullah. Et parmi ces mérites, takfiru al-sayyat. Ça efface les péchés. Cela efface les péchés. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, est rentré dans les ahadith et les invocations qu'il convient de dire. Wa qala Abu Hurayra radiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man qala hina yusbihu wa hina yumsi سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه خرجه مسلم. Le premier hadith qu'a cité l'auteur رحمه الله تعالى أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى et le hadith rapporté par un muslim, le hadith d'Abu Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit matin et soir subhanallah wa bihamdi 100 fois, personne ne viendra le jour de la résurrection avec une meilleure œuvre que la sienne, si ce n'est quelqu'un qui a fait plus que lui. Si ce n'est quelqu'un qui a fait plus que lui. Dans la traduction, ils ont mis, si ce n'est quelqu'un qui a dit autant que lui ou davantage. Al-Sheikh Abdurazzaq Hafidhahullah Ta'ala et d'autres parmi les savants en expliquant le hadith n'ont pas dit ainsi. C'est-à-dire que ou fait davantage ne veut pas dire plus de foi que lui subhanallah wa hamdi fa hasb. Mais c'est plus général que ça, plus d'adoration, plus de dhikr. La nabwab al-khayr kathira, bab al-salah, al-zakah, al-sadaqat et ainsi de suite. Donc celui qui aura fait plus d'adoration Naam, et celui qui le dépassera. Mais lui aura dépassé les autres. Mais lui aura dépassé les autres. Et on continuera, Inch'Allah Ta'ala, l'explication. On poursuivra l'explication du hadith demain soir. Wallahu A'lam. Wa sallallahu tabaraka wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي اللهم اغفر لأمي وللمسلمين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.